BW. Vue d'Allemagne.
Avez-vous déjà entendu parler de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht ? L'assassinat de ces deux figures du communisme allemand a eu lieu il y a tout juste 100 ans. Nous verrons quel héritage ils ont laissé à la gauche allemande. L'Allemagne et la France s'apprêtent à signer un nouveau traité de coopération dans un contexte de montée du populisme en Europe. Dans la deuxième partie de ce magazine, reportage à Bonn où le Premier ministre français est venu faire la promotion de l'amitié franco-allemande. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue. Socialiste, démocrate, communiste, révolutionnaire, les qualificatifs ne manquent pas pour désigner Rosa Luxembourg, assassinée le 15 janvier 1919 à Berlin avec son compagnon de route Karl Liebknecht. La personnalité de Rosa Luxembourg a marqué l'Allemagne et surtout la gauche allemande. Nous allons voir de quelle manière avec Emmanuel Droit, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg.
Il reste une figure de cette époque qu'on peut valoriser, c'est bien Rosa Luxembourg, parce que c'est une figure consensuelle qui incarne une forme de socialisme démocratique et d'appel au pacifisme et de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Mais pour commencer, replaçons les événements dans leur contexte historique. Imaginez l'Allemagne il y a 100 ans, le pays vient de perdre la Première Guerre mondiale, l'empereur Guillaume est en fuite et la paix est loin d'être acquise. Depuis fin octobre 1918, l'Allemagne est en effet secouée par une révolte. L'insurrection a été lancée par des soldats qui ne voulaient pas repartir au combat avant de s'étendre aux classes populaires. Après la proclamation de la République, le 9 novembre, les autorités conduites par le social-démocrate Friedrich Ebert tentent d'imposer l'ordre en vue de conduire le pays à des élections. Mais la Ligue spartakiste de Karl Liebknecht mobilise les foules. Pour diffuser leurs idées, les spartakistes publient le journal Die Rote Fahne, en français le drapeau rouge, dans lequel Rosa Luxembourg appelle à la révolution du prolétariat.
Elle est marquée en fait par une approche assez démocratique de la révolution, avec cette idée que ce sont les masses qui vont finalement, par leur poids et leur action, s'emparer du pouvoir.
En décembre 1918, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg fondent le KPD, le Parti communiste allemand. Inspiré du modèle bolchevique, leur rêve est de bâtir une république socialiste. Mais contrairement à Lénine et aux révolutionnaires russes, Rosa Luxembourg et les spartakistes allemands sont attachés à la démocratie.
Elle incarne un courant radical qui pense en effet que pour établir un ordre nouveau, dans la logique du matérialisme historique marxiste, il faut balayer l'ordre bourgeois au pouvoir. Simplement, elle a une approche par la base qui tranche avec l'approche de Lénine, puisqu'elle considère que ce qui est important aussi, c'est d'avoir la légitimité du régime socialiste, c'est-à-dire qu'il faut l'établir par la force. Et donc c'est cette phase d'établissement de la dictature du prolétariat. Mais cette dictature du prolétariat, elle doit au contraire très rapidement déboucher à partir d'élections sur un régime socialiste légitimé par les urnes. Et donc là, en ce sens, elle s'oppose à la conception léniniste du Parti communiste qui est considéré comme l'avant-garde des prolétaires. Et c'est donc à cette avant-garde que revient de gouverner le pouvoir.
En janvier 1919, les événements se précipitent. Pour vaincre l'insurrection populaire et ramener l'ordre dans la perspective des élections prévues à l'Assemblée nationale constituante le 19 janvier, Friedrich Ebert et son gouvernement emploient les grands moyens.
Il a peur de la contagion révolutionnaire, il a peur du chaos et il va sceller avec les élites militaires de l'ancien empire déchu une sorte de pacte. Et il va, avec l'aide des troupes gouvernementales, écraser l'insurrection spartakiste qui démarre à partir de la fin du mois de décembre et surtout au mois de janvier.
Le 4 janvier 1919, la grève générale est décrétée à Berlin. Les révolutionnaires érigent des barricades et occupent des bâtiments officiels. Mais ils sont écrasés dans les jours qui suivent par les corps d'élite. La répression fait plus de 100 morts. La tête des leaders spartakistes est mise à prix. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont arrêtés le 15 janvier et assassinés sans autre forme de procès par les miliciens, avec la bénédiction du gouvernement social-démocrate. Selon la version officielle, Karl Liebknecht est abattu en tentant de prendre la fuite lors de son transfert en prison. Rosa Luxembourg est elle aussi tuée d'une balle dans la tête.
Il y a un communiqué qui va sortir et qui constitue une sorte de fake news de l'époque, dans la mesure où ce communiqué mensonger dit qu'elle a été tuée par une foule de citoyens en colère. Et finalement, on retrouvera au mois de mai, donc le corps a été précipité dans l'eau dans le Landwehr canal, et c'est seulement à la fin du mois de mai qu'on retrouvera son corps. Il est repêché le 31 mai dans le Landwehr canal.
Des Volkes Blut verströmt in Bächen. Und bittere Tränen rinnen drein. Doch kommt der Tag, da wir uns rächen, dann werden wir die Richter sein.
Le sang du peuple coule dans des ruisseaux, des larmes amères s'y mélangent, mais viendra le jour de la vengeance, alors nous serons les juges. Un texte d'un poète polonais traduit et réécrit par Rosa Luxembourg, ici dans une interprétation d'Emma Biermann, la mère du chansonnier est-allemand Wolf Biermann. Cent ans après sa mort tragique en 1919, la mémoire de Rosa Luxembourg est toujours vive au sein de la gauche allemande. Tous les ans, le deuxième dimanche du mois de janvier, des milliers de personnes affluent au mémorial socialiste du cimetière central de Friedrichsfelde à Berlin pour une commémoration silencieuse. Un hommage déjà rendu en Allemagne de l'Est avant la chute du mur de Berlin, malgré l'opposition affichée par Rosa Luxembourg du temps de son vivant au totalitarisme.
C'était l'occasion pour les dirigeants de la RDA de bien inscrire la RDA dans la continuité de l'histoire allemande, pour bien montrer que la RDA n'était pas seulement un produit de la guerre froide, un enfant non désiré de Staline, mais qu'elle avait des racines proprement allemandes, et que là où Luxembourg et Liebknecht avaient échoué après la Première Guerre mondiale, en quelque sorte, eh bien, l'histoire donne raison aux communistes, dans la mesure où, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu la possibilité d'établir le premier régime socialiste sur le sol allemand, comme le disait la propagande. Simplement, toute la pensée politique de Rosa Luxembourg, c'est critique par rapport à la révolution d'octobre. Évidemment, tout cela était tabou. On prenait en fait certains éléments de la vie de Rosa Luxembourg et on mettait essentiellement en avant son internationalisme, son soutien initial à la révolution d'octobre, son attachement à la paix, sa dénonciation de la Première Guerre mondiale comme une guerre impérialiste. Donc tout ce qui allait dans le sens du régime était évidemment utilisé. Mais donc c'était une instrumentalisation sélective en fait de la figure de Rosa Luxembourg à l'époque de la RDA.
À la fin de la dictature en RDA, certains dissidents ont également revendiqué l'héritage de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht pour réclamer des réformes. Un an avant la chute du mur, certains défient le pouvoir central lors de la cérémonie de commémoration en s'affichant avec des banderoles sur lesquelles figure sans doute l'une des phrases les plus connues de Rosa Luxembourg.
La liberté qui ne vaut que pour les partisans du gouvernement, pour les membres d'un parti, aussi nombreux soient-ils, n'est pas la liberté. La liberté est toujours la liberté de ceux qui pensent autrement.
Aujourd'hui, une fondation proche du parti Die Linke porte le nom de la révolutionnaire spartakiste et la composition du public qui se réunit une fois par an pour lui rendre hommage montre à quel point Rosa Luxembourg est aujourd'hui encore une inspiration pour la gauche radicale.
Il y a toute la gauche communiste, radicale, avec toutes ces tendances de la plus importante à la plus minoritaire qui sont représentées et qui défendent une approche consensuelle de Rosa Luxembourg, notamment autour de l'image d'une femme engagée et attachée à la défense de la paix et la lutte contre l'impérialisme. Et c'est toujours une figure qui permet aussi à la gauche communiste de se mettre à distance par rapport à la social-démocratie allemande, puisque d'une certaine manière, c'est un gouvernement de transition présidé par un social-démocrate qui a écrasé la révolution dans le sang. Et ce fossé de sang reste assez vif dans les mémoires et permet à la gauche communiste, ou en tout cas à la gauche non social-démocrate, d'établir encore une distinction très claire entre eux et nous. Et donc, quelqu'un comme Oscar Lafontaine, par exemple, qui a lancé avec sa compagne Sarah Wagenknecht ce mouvement extra-politique sur la gauche, Aufstehen, il revendique cette différence entre eux et la social-démocratie actuellement au pouvoir, notamment sur la tradition de ce fossé de sang dont Rosa Luxembourg est le témoin.
Dans le cortège du centenaire de l'assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg, on a pu apercevoir des banderoles de soutien au mouvement des Gilets jaunes qui agitent la France voisine depuis plusieurs semaines. Pour Emmanuel Droit, le soutien de la gauche radicale allemande au mouvement contestataire en France trouve un écho dans la mémoire de Rosa Luxembourg.
Cette manière dont on célèbre la figure de Rosa Luxembourg, son attachement à dénoncer les conditions d'exploitation du prolétariat, son attachement à défendre une démocratie participative par le bas, eh bien, une partie des sympathisants de cette gauche communiste, c'est de cette façon qu'ils perçoivent le mouvement des Gilets jaunes en France. Et c'est une façon pour eux de considérer que finalement les frontières nationales ne jouent pas de rôle et que le véritable enjeu, c'est un enjeu de lutte de classe qui se joue à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. Et la présence symbolique de ces Gilets jaunes, eh bien, c'est une manière de rappeler une forme de solidarité prolétarienne que défendait Rosa Luxembourg.
Vous pensez que Rosa Luxembourg aurait endossé un gilet, elle aussi ?
Oui, certainement. Je pense qu'elle aurait été sur un des ronds-points pour défendre plus de justice sociale et plus de démocratie par la base.
Les élections européennes approchent. Du 23 au 26 mai, les citoyens membres de l'Union européenne éliront leurs nouveaux représentants au Parlement européen. Une élection clé alors que l'Europe fait face à la montée des populistes. Pour contrer les eurosceptiques, les gouvernements français et allemand prévoient une nouvelle coopération bilatérale dont le Premier ministre français a fait la promotion lors de sa visite au lycée français de Bonn en Allemagne. Avec un clin d'œil au sujet précédent, puisque ce lycée porte justement le nom de Friedrich Ebert. Écoutez le reportage de Lucie Dubois-Lorche.
Donc, je vous permets d'accueillir Édouard Philippe, le Premier ministre de la République française.
Bonjour à tous. Vraiment, ça fait quelque chose de revenir dans son lycée. Moi, j'ai été élève ici, dans ce lycée, entre 1986. En plus d'être français, il y avait quelque chose de très puissant qui me reliait à mes camarades de classe qui étaient ici, scolarisés. C'était cette appartenance commune à l'Europe.
Une semaine avant la signature d'un nouveau traité de coopération franco-allemande, le Premier ministre français Édouard Philippe s'est rendu à Bonn, en Allemagne, où il a passé son baccalauréat il y a 30 ans de cela. Pendant 3 quarts d'heure, le Premier ministre français a répondu aux questions des élèves sur 2 thèmes, l'Union européenne et la coopération franco-allemande. C'est face à un public enthousiasmé par l'idée européenne qu'il a vanté les bienfaits de l'Union.
J'ai 16 ans et je suis élève ici au Friedrich Ebert Gymnasium.
Qu'est-ce que tu penses de la coopération franco-allemande ?
Ça représente toute mon identité quelque part parce que moi-même je suis franco-allemand. Donc c'est extrêmement important pour moi. C'est magnifique qu'il y ait des institutions qui garantissent ça.
Je pense que l'Union européenne a une grande possibilité pour nous, que nous pouvons travailler dans d'autres pays ou voyager et pour faire la connaissance d'autres cultures.
Si ces élèves montrent un grand intérêt pour l'Union européenne et la coopération franco-allemande, cette attitude n'est pas commune. Elle se fait même de plus en plus rare. Il y a quelques années encore, la construction européenne était vantée de tous, notamment par les présidents français et les chanceliers allemands qui ont longtemps travaillé ensemble, jusqu'à tisser des liens d'amitié. De Gaulle et Adenauer, Giscard et Schmitt, Mitterrand et Kohl, le couple franco-allemand a longtemps été la clé de voûte de l'Union européenne, comme l'explique l'historien et politologue Klaus Petasek.
Elle a été sans doute décisive. Ils ont donc œuvré comme un accord dans la construction de l'Europe. Ça a été le cas dans les années 50, lors de la construction de la communauté européenne du charbon et de l'acier, dans l'Euratom, en 57, lors de la création de la communauté économique européenne, et bien sûr et surtout après la chute du mur, dans cette coopération étroite entre le président français Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl. Aujourd'hui, nous sommes à une Europe des 27, donc le contexte pour le couple franco-allemand a énormément changé. L'Union européenne est beaucoup plus large, elle comporte des États économiquement, politiquement, socialement très différents. Donc, au sein de cette union beaucoup plus large, le couple franco-allemand ne peut plus structurellement jouer le rôle décisif qu'il a pu jouer autrefois.
Depuis l'échec d'une constitution européenne en 2005, la coopération franco-allemande n'est plus ce qu'elle était, car les points de tension entre les deux pays sont nombreux.
Les points de friction et classiques sont, en ce qui concerne la politique financière, la place et l'importance de la stabilité de la devise, c'est la politique budgétaire, mais il y a aussi la politique militaire, où l'Allemagne est traditionnellement plus réticente que la France, qui reconnaît depuis très longtemps, d'une manière beaucoup plus nette, l'utilité de l'instrument militaire, mais aussi, peut-être à l'avenir, des points de friction en Afrique. Qui sait, c'est un domaine où les Français et les Allemands veulent coopérer, mais on peut se demander s'ils seront toujours d'accord. Alors, le problème général entre la France et l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, qui se trouve au centre de l'Europe, veut toujours maintenir la cohésion de tous les Européens. Tandis que la France souhaite un approfondissement beaucoup plus net, non seulement de la coopération franco-allemande, mais aussi du projet européen.
De nombreuses divergences, des mesures de coopération qui se font rares, le couple franco-allemand a du plomb dans l'aile. D'autant plus que les Européens se montrent de plus en plus sceptiques vis-à-vis de l'Union Européenne. En France, le Rassemblement National et en Allemagne, l'AFD, se montrent particulièrement critiques vis-à-vis des institutions européennes et leur discours attire de plus en plus de monde. Les élections européennes de mai 2019 seront donc décisives, aussi bien pour Emmanuel Macron qu'Angela Merkel. Les deux dirigeants semblent vouloir remettre le couple franco-allemand au goût du jour, avec un nouveau traité qui sera signé le 22 janvier à Aix-la-Chapelle. Plus de coopération en matière de défense, de climat, d'économie, c'est ce que porte ce traité. Ces mesures seront-elles suffisantes pour freiner les populistes dans leur ascension? C'est ce qu'espère Klaus Petersek.
Ce traité peut se montrer efficace face au populisme montant, dans la mesure où il démontre des élites qui sont convaincues du plus d'international qu'elles sont capables d'agir. Le couple franco-allemand a encore une place de leader en démontrant que la négociation vaut la peine, et aussi, oui, dans la mesure où les deux s'attaquent ensemble aux déficits et aux dérives de l'Union européenne actuelle.
Le traité d'Aix-la-Chapelle succédera donc à celui de l'Élysée qui a marqué les relations franco-allemandes pendant près de 6 décennies. La cérémonie est prévue mardi prochain dans la majestueuse salle du couronnement de l'Hôtel de Ville à Aix-la-Chapelle, symbole historique des liens entre les deux pays. C'est là que Charlemagne avait été sacré empereur. Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !